Chapitre 37. Quand la première voiture de patrouille de Grosvenor est apparue, toute sirène hurlante, je me suis figée. Elle me cherchait. C'était irrationnel comme supposition, mais voilà. On peut être paranoïaque et avoir des ennemis. Je me suis plantée au pied d'un poteau téléphonique à l'entrée de la station de métro, la tête baissée, rentrée dans les épaules, comme si je pouvais par magie disparaître dans mon gros blouson d'hiver. Raté. Les freins ont crissé. La voiture a stoppé net à ma hauteur. J'ai évalué la distance à parcourir pour rejoindre l'escalier du métro qui descendait sous terre. 10, 15 mètres. J'étais petite, rapide. J'avais mes chances si je m'élançais toute « Monte !» a grondé l'agent McKerrett par la vitre passager. « Pour l'amour du ciel, Charlie. Monte, planque-toi, vite !» J'ai ouvert la portière et je me suis accroupie par terre sous le tableau de bord. La tête de nouveau baissée, j'espérais que mes cheveux bruns se confondraient avec le cuir noir du fauteuil pour que je passe encore plus inaperçue. Tom écrasa l'accélérateur et la voiture décolla comme une fusée, toujours sirène hurlante. Tout laissait à penser que l'agent était en pleine course-poursuite. « Décris-moi ton pistolet, » dit Tom, les deux mains sur le volant, le regard droit, le visage fermé. « Hein ? Décris-moi ton arme ! » « Un Taurus 22 semi-automatique, chromé, avec une poignée en bois de rose. »« Comment la poignée ?»« En bois de rose. » Il grogna, tourna sur les chapeaux de roue, prit encore un peu de vitesse. « Tom, qu'est-ce qui se passe ?» « Un appel du sergent, il y a 2 minutes. On vient de lancer un mandat d'arrêt contre toi. » Il m'accorda enfin un regard. « Pour assassinat. » J'ouvris de grands yeux, ne dis rien. « Tu vas vouloir m'expliquer, Charlie. Me dire que tu n'as rien fait, que tu es innocente. » « Je ne comprends pas. » « Moi non plus, » constata-t-il simplement. Il avait l'air en colère. Contre lui-même, contre moi, contre cette situation, je n'arrivais pas à savoir. « Voilà ce que je ne pige pas. Ça fait une demi-heure que ça bavasse à la radio à propos d'une découverte dans une grosse affaire. Meurtre en série, 3 pédophiles assassinés. Comme quoi ils auraient enfin retrouvé l'arme du crime. Des gars de la police de Boston disaient en rigolant qu'au lieu d'arrêter la tueuse, on devrait l'embaucher. » Tom quitta la route des yeux pour me regarder. « Je savais que c'était toi, Charlie. Forcément. La demande de confiscation de ton arme hier soir, le lieutenant qui ressort ton planning, qui passe la moitié de la nuit pendu au téléphone avec un enquêteur de Boston. » « 1 minute. » Je me redressai, et ma tête heurta le dessous du tableau de bord. « 3 meurtres ? De pédophiles ? Mais, enfin... » « C'est bien ce que je pense. Parce que je suis bien placée pour savoir qu'on n'a pas confisqué ton arme hier soir. Shepherd a fouillé ton sac. Rien à te reprocher. » Je ne dis plus rien, me contentai d'écouter. Donc je me suis demandé comment la police de Boston avait pu déterminer que les balles provenaient de ton arme, et j'ai appelé le labo. « Tu as appelé le labo ?»« Mais oui, je tire 2 ou 3 fois par mois avec John Cassir, le responsable de la balistique. Alors je lui ai posé la question, tu vois, simple conversation entre collègues. Et il m'a dit que oui, il avait passé toute la nuit à faire des tests pour une analyse balistique, une grosse affaire. Mais qu'il n'avait pas pu relever d'empreinte digitale vu que la poignée était en caoutchouc quadrillé. »«
En caoutchouc ?»
J'étais plus perdue que jamais. Tom ralentit légèrement, mit son clignotant. Freinant par à-coups, il s'arrêta à un carrefour. Je me recroquevillai de nouveau en priant pour être invisible. Puis il tourna à droite, accéléra progressivement, mais éteignit sa rampe lumineuse, adopta une vitesse de croisière. Il semblait avoir une destination précise en tête, mais j'ignorais laquelle. « Une nuit, j'ai regardé dans ton sac.
Tu as fouillé dans ma sacoche ?
Tu t'étais mise en code 10-6. Je te cherchais, tu n'étais pas là, mais ton sac, si. Alors j'ai jeté un œil.
« C'est une intrusion dans ma... »«
Dis-moi merci, Charlie. » »« J'ai vu ton pétard. » »« Je me rappelle avoir pensé qu'il était beau, surtout avec la poignée en bois de rose. »« Alors si ton arme est un 22, avec une poignée en bois de rose, que clairement nous n'avons pas confisquée hier soir, comment se fait-il que la police de Boston pense que ce 22 avec une poignée en caoutchouc t'appartient ? Et que, toujours plus fort, cette arme te désigne comme coupable d'une série de meurtres. »«
Pourquoi tu as regardé dans mon sac ?»
La manie d'être attiré par les accidentés de la vie, tu te souviens ?
Mais tu ne m'as pas dénoncé.
Je n'avais pas encore pris ma décision. À toi, crache le morceau.
Je ne répondis pas tout de suite. Je ne sais pas. Je n'ai pas abattu 3 délinquants sexuels. Je ne possède qu'un seul pistolet que j'ai caché après notre conversation d'hier soir. Seulement, quand je l'ai cherché il y a 10 minutes, il avait disparu. Alors peut-être que la police de Boston l'a vraiment en sa possession, mais d'après toi, c'est un tout autre pistolet qu'ils ont identifié comme l'arme du crime. Enfin, vu le mandat d'arrêt, ils ne sont pas encore au courant. Perplexe, je tournais et retournais le problème dans ma tête. Je ne pige pas. La voiture de patrouille avait ralenti. Tom mit son clignotant, tourna à gauche. Qui t'en veut ? Je ne connais personne de façon suffisamment intime pour qu'il puisse être un ami ou un ennemi. Je ne fréquente personne depuis 1 an. Je crois que tu peux témoigner à quel point je suis chaleureuse et sociable. Tom confirma d'un grognement. Quelqu'un semble te prendre pour une tueuse. Ou plutôt, rectifia-t-il, quelqu'un veut te faire passer pour une tueuse. Parce que c'est ça, non ? Le coup monté classique, on fait analyser une arme en prétendant que c'est la tienne, et voilà qu'elle est associée à 3 meurtres. Mais ce n'est pas mon Taurus. Sur mon permis, je m'interrompis. Mon permis de port d'armes ne mentionnait que la catégorie que j'avais le droit de détenir, sans description détaillée d'un pistolet en particulier, ce qui aurait permis de distinguer un 22 avec une poignée en bois de rose d'un 22 avec une poignée en caoutchouc. Ce n'est pas mon arme, répétai-je avec plus d'assurance. Et mon moniteur de tir, J.T. Dillon, peut témoigner en ma faveur. Il m'entraîne depuis 1 an avec mon Taurus. Il sait à quoi il ressemble. Tom n'était qu'à moitié satisfait.
Eh bien, au moins, tu as un premier témoin à décharge.
Je voyais ce qu'il voulait dire. En y mettant le temps et l'énergie, j'arriverai à prouver que la police de Boston se trompait. Le 22 qui m'avait été attribué n'était pas le mien. Mais en attendant, j'étais déjà sous le coup d'un mandat d'arrêt, et on commencerait donc par me jeter en prison. L'imbroglio ne serait démêlé que plus tard. Mais il n'y avait pas de plus tard, puisqu'on était le jour J, le 21 janvier, le jour auquel je me préparais depuis 1 an. J'étais censée affronter mon assassin, armée et prête à en découdre, et voilà qu'au bout d'à peine 20 minutes, je me retrouvais sans défense et en cavale. Mais comment ? Grâce à qui ? Lentement mais sûrement, mes neurones entrèrent en action. Un policier a fait examiner la véritable arme du crime. Sinon, ça n'aurait pas pu coller, pas vrai ? N'importe quel clampin ne peut pas se pointer au labo de la police et dire « Voici l'arme de Charlène Rosaline Carter Grant, merci de réaliser le test suivant. »
CQFD.
Mais, par précaution, le même flic s'est aussi emparé de mon vrai Taurus. Comme ça, je ne pouvais pas le ressortir aussi sec, filer droit au commissariat central et dire « Hé, il y a comme une erreur !»
Possible.
« Je ne comprends pas, » répétai-je. C'était atroce d'avoir l'air aussi faible, aussi désorienté.
Qui savait que tu avais un 22, à part moi ?
D'autres agents de notre commissariat ou de la police de Boston ? J'ai collaboré avec le commandant Didi Warren du commissariat central, et puis avec l'autre enquêtrice, Oh. Elles savaient toutes les deux pour le Taurus. Warren a promis de se renseigner sur l'assassinat de mes amis, de voir ce qu'elle pourrait trouver d'ici aujourd'hui, et Oh a créé une page Facebook pour essayer d'appâter l'assassin. Je ne terminais pas ma phrase. La dernière fois que j'étais allée là-bas, elle m'avait quand même posé beaucoup de questions qui n'avaient plus grand-chose à voir avec la mort de mes amis. Elle m'avait cuisiné sur ma mère, mon enfance, la mort de mes frères et sœurs. Oh, en particulier, n'avait cessé de revenir sur le sentiment de frustration et d'impuissance que je devais éprouver. Moi qui savais si bien à quel point les enfants souffrent et à quel point la police a les mains liées. Sauf, naturellement, si j'assassinais des pédophiles aux 4 coins de la ville. Elle pensait que c'était moi. Ça coulait de source. Et je n'avais rien nié parce que je n'étais pas précisément blanche comme neige. Autre crime, même sang sur les mains. Mais comment, même soupçonnée par 2 enquêtrices, avais-je pu me faire piéger par au moins l'une d'entre elles ? Et laquelle ? Ce fut là que je compris. Je sus exactement ce qui s'était passé. Je regardais Tom. Le capitaine O. C'est elle. Putain de merde, elle veut me faire accuser de ses propres crimes. Tom, au volant de la voiture désormais garée, me considérait avec scepticisme.
Pourquoi ?
Tu l'as dit toi-même. Les agents disaient en rigolant qu'au lieu d'arrêter la tueuse de pédophiles, on devrait l'embaucher. Peut-être qu'en fait, elle est déjà dans la police. Une enquêtrice de la brigade des mœurs frustrée. Tu vois, La jeune débutante pleine de convictions qui découvre, à sa grande déception, qu'elle ne peut pas toujours prouver les faits, sauver la victime, coincer le coupable, mais qu'elle peut, protégée par l'obscurité, l'abattre. Tom fit la moue, mais ne me traita pas tout de suite de cinglé. « C'est un boulot qui peut être frustrant, convint-il. Mais pourquoi te mouiller ? Comme tu le disais, tu peux produire plusieurs témoins, moi par exemple, qui pourront confirmer que ton Taurus a une poignée en bois de rose et non en caoutchouc quadrillé. Donc, tôt ou tard, tu arriveras à prouver ton innocence, et au mieux le capitaine O passera pour une mauvaise policière. Au pire, elle sera accusée des meurtres. » La réponse me vint aussitôt. « Mais il n'y a pas de tôt ou tard avec moi. Elle sait parfaitement que je suis condamnée à mourir aujourd'hui. Je suis carrément le pigeon idéal. On se ressemble même un peu, sauf qu'elle, elle est jolie. Mais tu vois le genre ? Brune a à peu près le même format. Elle sait que j'ai un 22. Elle m'a même posé des questions dessus. Hier encore, elle a consacré tout un interrogatoire à me faire passer aux yeux de sa collègue pour une femme tarée sur les bords, avec une mémoire défaillante et un passé traumatisant. La parfaite justicière autoproclamée. Et cerise sur le gâteau, dis-je en regardant ma montre, dans quelque chose comme 8 heures, je ne serai plus en situation de protester de mon innocence. Morte et présumée coupable. Que demander de plus à son bouc émissaire ? Tom, toujours soucieux, hocha légèrement la tête. Il ouvrit sa portière. « Pas bouger !» ordonna-t-il. Je baissai la tête, obéissante, mais l'agacement s'empara aussitôt de moi. Toute cette préparation, tout cet entraînement acharné pour retrouver mon rôle de chien bien dressé. Oh, puis merde. Je m'assis sur le siège et regardai autour de moi. Nous étions garés au pied d'un monticule de neige devant un immeuble en briques. Pas des logements sociaux, mais pas les beaux quartiers non plus. Un quartier de la classe moyenne où vivent les vrais gens. Je venais de comprendre quand Tom ouvrit la portière et me dit d'un air bougon. « Je risque ma carrière, là. Tu permets ?» Je descendis de voiture en baissant la tête pour dissimuler mon visage à d'éventuels témoins. L'agent McKerrett m'avait emmené chez lui. Il se rendait complice d'une fugitive parce qu'il pensait en son fort intérieur que c'était juste. Je le suivis docilement dans l'immeuble et montai jusqu'à un modeste appartement au 3e étage. Tous les stores du grand bow window sur rue étaient baissés. Je plissai les yeux dans cette obscurité enveloppante avant de comprendre pourquoi il occultait toutes les fenêtres. Évidemment, c'était un nuitard. Il dormait le jour et vaquait à ses occupations la nuit. Il alluma quelques lampes, lança ses clés sur le plan de travail de la modeste cuisine. L'appartement devait faire dans les 50 mètres carrés, un grand volume qui comprenait la cuisine et le salon, et à côté un plus petit, la chambre et la salle de bain. De la moquette marron, des meubles de cuisine en bois sombre avec un plan de travail en formica doré, un canapé beige bien rembourré dans le séjour, dominé par une télé à écran plat. Une piole de célibataire. Rien de coquet, mais propre, fonctionnel. L'agent McKerrett menait une existence aussi simple que respectable. « Je ne peux pas trop m'attarder, » dit-il. « Il faut que je reste dehors, vu le mandat d'arrêt en cours. Si j'arrête le service maintenant, le lieutenant va se douter de quelque chose. »«
Merci. » »«
Ils vont sans doute maintenir un dispositif renforcé pendant 1 heure et quelques. Tout le monde sur le pont. Après, s'il n'y a pas d'avancée, on reprendra la rotation normale. On me libérera pour que je me repose avant de reprendre le collier ce soir. »
« D'accord.
Je pense que tu seras en sécurité ici, mais il faut que tu restes à l'intérieur, store baissé. Si tu regardes la télé, mets le son en sourdine. Un des avantages de ce quartier, c'est que la plupart des voisins travaillent dans la journée. L'immeuble est assez calme. »
Il me regarda.
« Ça ira sans ta chienne ?»«
Elle a toujours mené sa propre vie. »
« Tu as besoin d'appeler quelqu'un ?»«
Ma tante. »
« C'est ta plus proche parente ?»«
Oui. »
« Alors non. C'est la première qu'ils contacteront. »«
Je ne veux pas qu'elle s'inquiète. »«
Elle te connaît, elle a de l'affection pour toi, peut-être même qu'elle t'aime. »«
Oui. » »«
Alors fais-lui confiance. Ça va se résumer à ça. Règle numéro 1 pour appréhender un fugitif, faire un tour dans les lieux qu'il fréquente habituellement, c'est-à-dire le commissariat et chez ta logeuse. Ensuite, interroger l'entourage. Dans ton cas, c'est assez complexe. Ta tante, c'est certain. » Si tu as parlé du prof de boxe ou du moniteur de tir à d'autres personnes, ils seront les suivants sur la liste. Mais depuis 12 mois, tu ne laisses pas beaucoup de traces derrière toi. Ça retardera un peu l'échéance.
Je ne crois pas.
Pourquoi ça ?
Parce qu'il y a là dehors quelqu'un d'autre qui surveille, qui guette, qui complote déjà mon assassinat. J'étais censée être forte aujourd'hui, fin prête, en forme, en pleine possession de mes moyens.
Il est quoi ? 13h28 ? Et regarde-moi. Grâce aux machinations du capitaine O, je suis désarmée et je me planque la queue entre les jambes. Quand tu vas partir, ce quelqu'un va frapper à la porte. Et je vais ouvrir. En sachant que je ne devrais pas. En sachant que c'est exactement ce que Randy a fait, exactement ce que Jackie a fait. Mais ce sera irrépressible. Parce qu'on est tous curieux. Parce qu'on a besoin de réponses à nos questions. Alors elle va frapper, et moi, je vais ouvrir. Ma voix monta dans les aigus. L'assassin sera là. Ce sera peut-être le commandant Didi Warren, ou pourquoi pas le capitaine O, ou bien ma tante, que je n'avais pas vue depuis un an et qui débarque à Boston hier, comme par hasard. Alors je vais ouvrir la porte en grand. Ce sera plus fort que moi. J'aurai envie de savoir ce qu'elle a à dire. Je la laisserai entrer chez toi. Elle dira quelque chose, je ne sais pas quoi, les derniers mots qu'a entendu Randy, les derniers mots qu'a entendu Jackie. Ils doivent être captivants. Un vrai chant des sirènes. Parce que pendant qu'elle parlera, je resterai plantée là et je ne ferai pas le moindre geste quand ses mains se refermeront autour de ma gorge et que lentement elle commencera à serrer. Tu arrêteras enfin de patrouiller, tu rentreras enfin chez toi et je serai morte sur le sol de la cuisine. Aucune trace de lutte, aucune trace d'effraction. Juste le 21 janvier. Tom me regarda. Et doucement, il me frappa le front du bas de la main. Pour qui tu te prends ? Blanche-Neige ? Secoue-toi un peu. Je clignai des yeux. Sentis ma prédiction se dégonfler, faire pchit. Désolée. Un moment que je n'ai pas dormi. Sans blague. Maintenant, reviens une seconde en arrière. Tu viens de donner trois noms. Le commandant Warren, le capitaine O et ta tante.
Oui.
C'était bien raisonné. Arrêtons de discuter sur des hypothèses, qu'on ait au moins une certitude sur un morceau de ce puzzle.
Tom sortit son téléphone et composa un numéro.
John Cassir, s'il vous plaît. Dit-il. Et quelques secondes plus tard, « Salut John, c'est Tom. Dis-moi, j'ai une question à te poser. Je ne voudrais pas te mettre dans l'embarras ni rien, mais tu sais, les tests balistiques que tu as faits cette nuit. Eh bien, le pistolet appartiendrait à l'opératrice téléphonique de notre commissariat. Ouais, tu imagines, on est tous sur le cul, je peux te dire. Enfin, au moins, elle descendait des pervers, hein ? N'empêche. Bref, avec les copains, on aurait des questions à poser à l'enquêteur en charge du dossier. Tu aurais un nom sur le formulaire de dépôt ? Hélène Hollenbush. Super. Merci, John, je te tiens au courant. Ok. La semaine prochaine. Ce sera cool de se retrouver sur le stand. Salut.
Tom referma son téléphone.
La voilà ta réponse. C'est le capitaine Hollenbush qui a donné ton pistolet.
Quelle salope ! Je peux encore comprendre son besoin de tuer des délinquants sexuels ? Mais elle pourrait au moins en garder le mérite, quoi. Au lieu de ça, elle sacrifie ma sécurité pour protéger sa réputation. Enfin, merde !
Il faut voir les choses comme ça. Survie à cette journée, et demain tu pourras la dégommer.
Tom reprit ses clés.
Inutile de le préciser. Pas le fixe. Il montrait son téléphone.
J'ai un mobile jetable.
GPS intégré ?
Comme si je pouvais m'offrir ce genre de luxe avec ce que me paie le commissariat.
Il eut enfin un petit sourire. Il se tourna vers la porte, puis au dernier moment, il fit un pas en arrière, se retourna, leva une main vers moi. Je n'ai pas retrouvé mes réflexes de boxeuse, je ne me suis même pas mise en garde. Je me suis laissée faire tandis qu'il m'attirait brutalement à lui. Ses mains sur mes épaules, ses doigts qui s'enfonçaient dans ma chair, mes mains à moi étalées sur son torse, alors que ses lèvres descendaient vers ma bouche. C'était tout sauf doux. Pas de questions, pas de réconfort. Pas de promesse, juste ses lèvres dures et même peut-être un peu en colère, mais aussi avides, demandeuses, exigeantes. Puis mes mains sont montées jusqu'à ses cheveux, ma jambe gauche s'est enroulée autour de sa hanche. Il me dévorait, mais j'étais encore plus avide, encore plus demandeuse. Je voulais, je désirais, et nous nous embrassions encore et encore. Jusqu'à ce qu'il me repousse. Il a reculé. Ses cheveux bruns en brosse étaient au garde-à-vous. Il était à bout de souffle et il tendait une main devant lui, comme pour nous calmer tous les deux.
« Je n'ai pas fait ça pour ça », a-t-il dit finalement d'une voix encore mal maîtrisée.
« D'accord. »
Je serrai les poings au bout de mes bras ballants, essentiellement pour me retenir de lui sauter dessus.
« Faut que je retourne à la voiture. Que je rende compte, mais je ne t'apprends rien. »«
Fichu central. » »«
Quelques heures et je te promets de revenir. »
Quelques heures, et je te promets d'être encore en vie.
Il a hoché la tête. Il m'a regardé, et puis... il est parti.
J'ai refermé la porte à clé derrière lui. Je suis restée là à me demander lequel de nous deux la vie ferait mentir en premier. Plus que 6h30. Pas de pistolet. Pas de chienne. Pas de connaissance du terrain. Tant pis. J'ai fouillé les tiroirs de la cuisine jusqu'à trouver celui qui contenait le bric-à-brac habituel. Scotch, stylo-bille, 4 grosses piles, fil de pêche, attache pour sachet, marteau, ampoule de rechange. J'étais sur le pied de guerre.